docteur. Il me faut un docteur. Docteur. Il me faut un docteur.
Pourquoi le rock était devenu nécessaire?
D'abord parce que j'en écoutais depuis longtemps aussi, quand même. C'était très ouvert sur toutes les musiques, mais j'écoutais plus les... Enfin, adolescent, j'écoutais plus les noirs, la musique noire, donc le blues, qui va vers le rock d'ailleurs, en fait, parce qu'après, ils racontent ce qu'ils veulent, mais le début du rock, pour moi, c'était pas autre chose que le boogie-boogie, tu sais. C'était ça, hein. Et j'écoutais surtout ado James Brown, voilà, et des bluesmen, des blues, mais alors Big Bronzy, Johnny Hooker, enfin les origines, quoi.
Je suis planté là par hasard un beau soir de dèche.
Jacques Higelin. Une production des radios francophones publiques.
Couché sur le trottoir, un paquet de pauvres mecs et une super panthère qui te propose son beefsteak.
Réalisation Dominique Martineau Lagarde.
Dans le boxon, où ce que tous les paumés vont. Boxon.
Sur France Inter.
Le rock, c'est simplement la progression, l'avancée du blues, l'avancée du jazz. C'est une autre façon de le concevoir, binaire plutôt que ternaire. Et adolescent aussi, on a beaucoup dansé sur les surprises parties et sur Boom, sur Presley. Et puis Paul Anka, et puis Bill Holley. Tu connais And the Comet? Ça, c'était avec la croche-cœur, là. Ouais. Donc j'ai écouté rock, ouais, Around the Clock, ça. C'est après l'armée, là, je me suis plongé beaucoup dans les Stones, les Beatles. Donc dès 1964-65. Mais les Beatles, je trouvais ça extrêmement varié, différent, très inventif. En quelques disques, ils ont fait le tour de tout. C'est plutôt vers les années 68, 69, 70 que j'ai commencé à écouter très sérieusement. Mais avant déjà, j'avais acheté un ampli Garen. Ça s'appelait comme Lapin de Garen. C'est G-A-R-E-N. Un petit ampli rouge. Et j'avais acheté une guitare électrique. Donc je commençais à attaquer ça sérieusement.
C'était un gros besoin de notre part, de ma part déjà, d'en jouer, de se faire
Louis Bertignac,
de se faire remarquer avec ça, parce que c'est, on a toujours rêvé, quand on voit les Beatles ou les Stones et qu'on a 10 ans, 12 ans, on rêve de faire ça plus tard. Donc quand le plus tard est arrivé et qu'on a 16 ans, on est à fond dedans. Et à la limite, je me disais même pas, je vais en faire ma vie, j'y croyais pas une seconde. Pour être honnête, je me disais, bon allez, je sors du lycée, en fac ça me gonfle, donc je vais me faire... Dans les rêves, on se dit, ouais, je vais faire ma vie, je vais faire une vie de musicien, mais dans la réalité, on sait très bien que si ça marche pas au bout de 3-4 ans, on pourra pas être, on n'a pas envie d'être clodo. On peut envisager ça un tout petit peu, par moment, j'ai pu envisager... Comme 68 venait de passer, on pouvait se dire en fait, il n'y a pas besoin de fric, on peut être très heureux sans en rond. Mais au fond, on n'y croit pas vraiment.
Et puis, ce qui a déclenché tout, c'est... je crois que je suis allé voir aussi des concerts. Je suis allé voir un concert de Hallyday. C'est aussi vers les années 70, ça. À l'Olympia. Et j'ai vu le public, j'ai vu l'ambiance, ça m'a incroyablement marqué ce public déchaîné, enthousiaste, jeune, avec une pulsion d'enfer, quoi. Mais avant, bien avant, j'ai très vite écouté des Gene Vincent, enfin tous les premiers, quoi.
Mais ça, à chaque fois, c'est de la musique qui est essentiellement anglaise ou américaine.
Ouais. Ah, j'écoutais pas beaucoup les.
Et puis tout d'un coup, on arrive.
Bah parce que le rock au début était français. Bon, Johnny, Eddie Mitchell, des chaussettes noires, avec l'écran et tout. Mais je les trouvais toujours très copieurs, quoi. En fait, même Claude François, il s'inspirait aussi de. Pour moi, ça restait quand même des paroles assez niaises, mais d'un autre côté, les paroles anglaises aussi, je comprenais pas l'anglais. Et en fait, il y avait quelqu'un m'a sorti ça l'autre jour, mais c'est pas faux, quoi. Les premières chansons des Beatles, il y avait parfois des paroles pour teenagers et c'était un peu cucu, quoi. Tu vois, c'était, mais bon, ça comptait pas, si tu veux, il y avait pas d'importance, quoi. Après tout, si t'écoutes le blues, hein, c'est toujours le même thème qui revient. Ma petite amie m'a quitté. Je suis fatigué, je rentre du boulot. Elle est partie avec un autre mec. Enfin, en gros, c'est toujours je souffre le blues, quoi. C'était rarement quelque chose. C'est un peu plus tard que ça a commencé à devenir une musique dont les textes étaient porteurs de révolte clairement exprimée, quoi.
Et ben, pour moi, Higelin était le premier à écrire comme ça. On écrivait déjà. Moi, Jean-Louis écrivait, moi j'écrivais, on essayait. Mais on a pris une petite claque en voyant Higelin débarquer. Parce que ses textes avaient un truc vraiment rock. Dans l'écriture, pas forcément dans le sens, mais dans le sens aussi, mais surtout dans le son. Pour moi, c'est surtout une question de son qui donnait aux mots, plus que ce qu'il y avait derrière. Pour moi, le rock, c'est une musique d'enfant, c'est pas une musique de combattant, c'est pour s'éclater avant tout. Et quand on dit j'ai besoin d'un docteur ou Mona Lisa klaxon, des trucs qui sonnent comme ça, il n'y a pas tellement de combat là derrière. C'est possible qu'il y en ait, mais c'est pas ce qui me touche. C'est jamais ce qui me touche, parce que ça veut dire quoi, le combat? C'est un truc politique. Et pour moi, le rock, c'est tout sauf de la politique. C'est une manière d'être touché par des choses. C'est plus qu'une revendication quelconque, parce que moi, j'ai remarqué que tous ceux qui revendiquaient quelque chose en chanson, ils ne le faisaient pas dans la vie. Bon, on peut. C'est bien de donner cette couleur un petit peu, parce que le rock, c'est quand même une musique qui souvent rentre dans l'art, donc on a tendance à crier. Et tant qu'à faire, un cri sonnera mieux comme un mot de colère, quoi. Un mot de colère, ça s'appliquera mieux à ce qu'on va crier. Mais c'est juste pour la forme, pour la couleur. Il n'y a pas de fond politique à tout ça.
Pour moi, c'est rock et punk depuis le début, même si c'est un piano-voix, parce que c'est rock dans l'énergie, c'est rock dans la manière de déclamer les mots, la manière de respirer les mots, la manière et par les mots eux-mêmes. Donc, voilà, quand il y a des grosses guitares, c'est évidemment très rock, et puis quand il y a des pianos tout doux, c'est très très rock aussi, ouais.
Quand soudain derrière elle surgit le célèbre King Kong. Il a la bave aux lèvres et la banane comme un canon. Dans les yeux fous du monstre basse une étrange lueur. Esclave de la danse, Mona ne l'a pas senti venir. Il va pour se le saisir, oh Mona Lisa claxe.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un combat un peu au départ dans ces années 74, 75?
Ça a commencé avant le rock, hein. Ça a été la rencontre à. Parce que je me rappelle, pendant que je tournais le film Elle court, elle court, la banlieue de Gérard Pires. Et j'avais fait ça pour du pognon, je lui avais dit en plus. On a été une communauté, on avait besoin d'argent, quoi. Et donc j'ai accepté ce film en lui disant j'ai pas envie de le faire, mais. Mais là, on a besoin d'argent. D'ailleurs, je n'ai pas profité. Moi, on a investi cet argent que j'avais gagné dans. On voulait reconstruire. En fait, on voulait construire une base moderne, nouvelle, autogérée, etc. Mais Donc déjà à ce moment-là, j'ai rencontré Simon Boissaison vers les années 70-71. Et puis pour parler franchement, c'est quand j'ai commencé à prendre de l'acide, hein, pas longtemps, mais quand même, du LSD, que tout d'un coup ça a ouvert. Moi j'étais, je buvais du vin rouge, tu vois, et je suis tombé amoureux d'une femme qui m'a dit un jour. Je tombe dans un endroit, il y avait une fête comme ça, ils étaient tous allumés, je dis drôle d'ambiance, tu vois. J'étais pas vraiment emballé. Elle me dit, tu devrais en prendre une pastille là, qui fait rire. Et je m'y suis mis. Et j'ai cru qu'il allait m'arriver des choses terribles. Je suis parti dans la nature et tout s'est mis à bouger. Et là, j'ai écouté la musique, qui était faite aussi par les gens qui étaient plongés dans tout ça. C'était une époque comme ça. En fait, c'est toujours pareil. Je conseille à personne de plonger là-dedans. Je veux dire, même pas à des jeunes gens. Il faut faire gaffe, quoi. C'est dangereux. J'ai vu plein de gens scotcher au plafond, devenir fous, etc., quoi. Mais ça m'a ouvert une perception comme ça. Et après, je pouvais plus. Le jazz avait vieilli pour moi. Et puis, les musiciens français, ils étaient très snobs. Qu'est-ce qui se la pétait, putain. Et genre, le rock, c'est pauvre musique, tu vois, pauvre jeune. Moi, je trouvais ça honteux de penser comme ça. Et pourtant, j'avais 30 ans, quoi. Mais 28 ans, 27 ans, 28 ans. Mais je trouvais ça ridicule, quoi. D'être agrippé comme ça. Donc, je suis pas passéiste sur la musique. Je trouve que la musique, elle reste vivante quand elle bouge, quand elle évolue.
Paris, New York, New York, Paris. Comme un pauvre con, tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33, tout droit du Minnesota. Comme je peux pas rester en place, le Suzy a une plombe de retard. Flatte l'idée me prend d'aller traîner mes godasses sur le dépotoir de l'aérogare qui est juste en face. Et là, vautrer sur la banquette d'un jumbo jet déglingué. Je rêve tout éveillé à Paris, New York, New York, Paris. Comme si vous y étiez, comme si tu y es.
Jouer avec Simon et avec d'autres musiciens, mais l'alliance elle était entre Simon et moi, et Simon Boissaison, et d'où j'avais appelé BBH, Boissaison, Ben Arock qui était un batteur, Higelin, c'est ça BBH, 75, parce qu'on a enregistré en 74, mais on a commencé avant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a commencé au moins 2 ans avant, et qu'on avait fait des maquettes, dont une maquette de Paris-New York qui dure 15 minutes et d'un délire total parce qu'il y avait des... Et là, il y avait une douzaine de musiciens absolument déchaînés, un truc sauvage. Et même avec Simon, on a joué aussi pendant l'époque entre 70, mettons, et 74, donc BBH. Non, il y a eu 3-4 ans où on jouait énormément.
Est-ce qu'on peut considérer l'album BBH 75 comme le premier album rock en français ou pas?
À un certain niveau, certainement. Parce qu'il y avait des groupes un peu rock à l'époque, comme Martin Circus, Triangle, Magma, qui avaient sorti des albums déjà. Mais je pense que c'était pas vraiment... on pouvait difficilement appeler ça vraiment du rock. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un truc qui est... Et à mon avis, ce truc, il s'appelle Simon Boissaison, que je respecte infiniment, parce que c'est toujours un vrai rocker. C'est un mec qui a ça dans l'âme, qui sait écrire un truc très simple. Et c'est un grand riffeur, à la guitare. un bon bassiste aussi. Et je pense que c'est lui qui a donné cette couleur à l'album BBH 75 qu'on ne trouvait pas auparavant. C'est, dans Triangle, dans Martin Circus, c'était un petit peu on appelait ça des requins de studio qui s'étaient mis au rock. C'était pas des musiciens qui ne faisaient que du rock et qui ne bandaient que pour ça. C'était un peu des essais comme ça. Mais je pense que le couple Higelin-Boissezon et aussi Benaroc était vraiment, ça avait une couleur purement rock. C'était un album purement rock. Donc ouais, on peut dire ça, je pense.
Pour moi, j'ai souvenir d'une jeunesse avec BBH 75. Et ce disque-là est passé, repassé chez moi. Et mon père était un grand fumeur et je le revois encore fumer ses cigarettes sur la cigarette, quoi, sur la chanson La Cigarette. Et cet album est arrivé pour moi quand j'ai découvert le punk. Donc pour moi, c'était du punk français, entre les mots, entre tout ce qui se passait. Et c'est parti de là, Higelin. Ouais.
Je suis amoureux d'une cigarette. Toute la sainte journée, elle me colle au bec.
Faut que je réécoute du Jacques Higelin, ça fait très longtemps.
Elle aussi.
Ah oui. Ouais. Non, j'écoute de temps en temps, on écoute des choses avec Arthur. On a redécouvert certains albums ensemble. Enfin, pas ensemble, mais... en s'en parlant, en se disant, t'as vu ça quand même, ce qu'il avait fait à l'époque, incroyable.
Avec Lydia.
Ken Higelin.
On a toujours été très surpris. Alors ça va le faire chier que je dise ça, mais c'est quand il a fait BBH 75, ça sonne. C'est un disque qui sonne extraordinairement bien. Si vous écoutez le son, juste le son, c'est dingue que ça ait pu exister à une époque comme ça où je crois que le paysage. En France, musical a été très différent. Et un type qui a déboulé avec cet album, et ça sonne incroyablement bien. Et avec Arthur, on s'est toujours dit waouh, ça sonne très très fort.
Parce qu'après BBH, on a fait des tournées et on a fait des concerts, plein, et c'était quand même très très chaud, quoi. C'était canettes de bière systématiques, des vraies canettes en verre, là, que les mecs t'envoyaient sur la gueule. Et moi je bougeais pas parce que je pensais qu'ils étaient tellement déchaînés que ça passerait à côté, que si je bougeais, j'allais m'en prendre une. Mais bon, les flics à chaque fois, les CRS, tout ça, enfin bon, une période extrêmement chaude. C'est toujours ce que j'ai aimé, quoi. Cette urgence viscérale comme ça, et en même temps où l'intellect rejoint totalement et le ventre, et le cœur, et le corps, tu vois. Et où t'es arc-bouté, où tu bouges, tu danses, tu vis la musique, quoi. Et bon, j'ai aimé ça. Ça n'empêche absolument pas, au milieu, de jouer une balade au piano, ou tout d'un coup d'être tendre, rêveur. Et pour moi, ça a toujours été le mix des deux, quoi. l'énergie bouillonnante qu'il y a dans mon corps, dans mon cœur aussi, et en même temps la plénitude de rêveur qu'il peut y avoir dans mon cerveau ou dans mon cœur aussi. Quand même, cette histoire de rock a été très mélangée et très impliquée dans l'histoire de défense aussi, tu vois. Il y avait un moment où tout était comme ça. Et je pense que le mouvement a perdu de sa vigueur à partir du moment où il y a des phares qui sont devenus prisonniers de ça. Et tout d'un coup, ça a perdu vraiment... moi, j'ai assisté aussi à la déclin. De tous ces mouvements qui étaient nés comme ça et où je les voyais tomber là-dedans, quoi. C'est pas un reproche et c'est pas un jugement, c'est un constat. Et je me suis dit à ce moment-là, pas d'accord du tout avec ça, parce que s'il y a une révolte, s'il y a un combat, ce sera pas fait par des gens qui tiennent pas debout, quoi.
Il me faut un docteur. Docteur. Il me faut un docteur.
Moi, je sais que le rock s'est fait descendre par les dealers, par la drogue, tu vois. C'est là où ça a commencé à merder sérieusement. Et c'est ça que j'ai refusé. Je dis pas que je fumais pas les pétards, bien sûr, tout le monde. Je te dis, j'ai pris du LSD, mais 10 fois, quoi. 9 fois, je crois. J'ai fait 9 voyages. Arrivé au 9e, j'ai dit j'arrête. Parce que j'ai vu ce que j'avais à voir. Et comme le 9e voyage était le même que le début, j'ai dit, moi, je veux pas, tu vois, d'abord, ça fait des dégâts. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ça. Mais comme tout le monde était plongé là-dedans, j'ai été voir ce que c'était. Et je m'en excuse pas. C'est juste, ça m'intéressait. Moi, je savais quand je prenais quelque chose. Mais bon, je suis pas allé voir l'héroïne ou la cocaïne parce que ça me dégoûtait, quoi. Deux fois, j'ai essayé un mec pour voir ce que ça faisait parce que j'avais des copains qui tombaient comme des mouches et je voulais vraiment voir ce que ça faisait. Et j'ai compris tout de suite, quoi. J'ai compris que si je rentrais là-dedans, j'allais arrêter. J'allais perdre totalement... Ouais, j'avais plus peur. Tu vois, une fois, j'ai pris en scène, ça a été une catastrophe. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai dit quelle honte. Le public comprenait rien. J'étais cool. Hein. J'avais rien à foutre de rien. Et là, j'ai compris. J'ai dit voilà le piège de cette dope-là. C'est que tout d'un coup, t'en as plus rien à foutre. Et alors, tu es capable. Ça t'est égal, tout est égal. Et tout d'un coup, je me suis dit mais la musique même va me devenir égale, quoi.
Alors là, on s'arrête.
Alors là, j'ai arrêté tout de suite. Parce que j'ai dit, je vais pas passer mes journées comme j'ai vu des mecs courir après un dealer, quoi. Chercher un mec. Tout le temps passer à ça, quoi. Et finalement, à t'autodétruire. À t'autodétruire.
Est-ce que tu jouis de la découverte? Gaffe, j'ai l'accent.
C'était étonnant, je sortais beaucoup, j'avais compris que j'arriverais à rien si je sortais pas de chez moi, donc je suis sorti pas mal, j'allais dans toutes les fêtes qu'on me proposait, je me retrouve un soir, c'est Olive, un vieux copain qui m'invite dans une fête à Hérouville, au château d'Hérouville.
Louis Bertignac.
Super, on y va, on prend même pas les guitares, on va là-bas, j'avais ma 4L, on arrive là-bas, on traîne, on va de pièce en pièce, il y avait plein de pièces. Et il y avait une pièce où quelqu'un, où il y avait un ou deux mecs qui étaient en train de jouer. Et je trouvais la voix pas terrible, la musique pas terrible, mais les paroles intéressantes. Et donc j'ai dit, je peux faire le bœuf, et je fais le bœuf. Et ça m'a éclaté, ce mec que je connaissais absolument pas, dont j'avais jamais entendu parler, qui attaque un thème « Docteur, j'ai besoin d'un docteur ». Ça me faisait marrer, c'était la première fois que je jouais du rock vraiment en français avec un texte pareil. Et c'est tout, Higelin, je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était, et voilà, au revoir, un de ces jours. Et je tombe sur Valérie Lagrange,
qui chantait un truc à la guitare sèche. Donc là, j'ai pas résisté, elle était trop jolie. J'ai essayé de la draguer, donc j'ai pris une guitare. Et elle trouvait que je jouais bien, je pense. Et on est restés copains, on s'est rappelé le lendemain, on s'est vus, on s'est plus quittés pendant quelques semaines. Et deux jours après, elle me dit, oh, si tu veux, j'ai un copain, Jacques Higelin, tu sais, c'est un mec avec qui t'avais fait le bœuf. Ah bon, ouais, d'accord. Il répète, il fait une première partie à l'Olympia, si tu veux, on y va, on va voir leur répète. Donc, super, on y va, on s'assoit, dans le truc, sous l'Olympia, je crois. Et ça répétait devant nous, et puis à un moment, j'ai rien compris, il y a eu un genre d'altercation. Et genre, si t'es pas content, casse-toi, et ouais, je me casse, et donc c'est Simon qui remballe sa guitare et il s'en va. Drôle d'ambiance, donc avec Valérie, on se regarde, bon, on va peut-être en profiter pour aller dire bonjour. On dit, viens, je t'emmène, on va dire bonjour à mon pote, donc je vais dire bonjour à Jacques. Et... me présente comme ça, bonjour, et puis et pendant qu'ils discutent de je sais pas quoi, je vais voir le guitariste, l'autre guitariste, parce que forcément, entre guitaristes, il y a toujours une attirance, il y a toujours un truc. Alors, qu'est-ce qu'on discute? Ouais, ça va, ouais, super, elle a l'air bien ta guitare, c'est quoi? Ouais, tu veux l'essayer? Ouais, ouais, je veux bien. Donc, je joue quelques notes, un peu de solo, un peu de trucs comme ça. Et tout de suite, j'ai Higelin qui se ramène, il me dit ouais, « Tu veux jouer avec nous ?» Je dis « Ouais, avec plaisir !» Et puis ça s'est arrangé, ça s'est fait comme ça en 30 secondes. Et il me dit « Ouais, bah, tu sais, on joue à l'Olympia, donc ici, après-demain, ou dans 3 jours, est-ce que tu penses que tu seras prêt ?» Je lui dis « Ouais, il n'y a pas de problème, je vais chercher mon ampli, ma guitare, donc je prends la 4S, je vais chercher ampli guitare. » Et je me pointe, et voilà, et ça commence à répéter. Je répète avec eux des chansons que je ne connaissais pas, mais enfin, il m'a donné l'album BBH75 le soir pour que je le bosse à la maison. Et j'ai été propulsé sur scène 2 jours après, ouais. Avec mon premier job, c'était plus ou moins la première fois que je faisais ça. Pour moi, c'était sérieux, puisqu'il y a des gens qui payaient pour venir.
D'abord, il y a Louis Bertignac qui arrive.
Oui, qui était tout jeune, ouais.
Tout jeune à l'époque, inconnu quasiment de
Mais ils n'avaient pas encore fait de téléphone, oui.
Eh bien, c'est en 75, donc, que je l'ai rencontré pour la première fois. Et là, j'enregistrais un groupe qui s'appelait Hawkwind. Et vers la fin des enregistrements, Hawkwind a fait une grande partie.
Laurent Thibault.
À laquelle ont été invités, sans qu'on le sache, nous... à peu près 200-300 personnes, et on a vu défiler tout d'un coup plein de gens de qui venaient de Paris, qui venaient de partout. On était, nous, complètement dépassés par les événements. Et donc, évidemment, pour coucher tous ces gens-là, quand à la fin de la fête, tout le monde a dormi dans l'herbe, un peu partout, de droite à gauche. Enfin, c'était... Et donc, nous, de notre côté, comme il fallait qu'on surveille un peu tout, on n'a pas trop dormi. Et le matin, vers 7-8 heures du matin, je me souviens d'avoir vu un espèce de grand escogriffe qui traînait une guitare derrière lui, qui avait l'air émerveillé devant la campagne. Et c'est en fait la première image que j'ai eue de Jacques Higelin.
Il y a eu Irradié au château d'Hérouville, parce que j'ai eu besoin de verdure, quoi. J'ai eu besoin d'abord de me rafraîchir la tête. Et on est parti avec Louis Bertignac, Simon, un bassiste dont la femme est devenue folle pendant l'enregistrement. C'était dur, ça. Il y a eu des moments difficiles, mais bon, c'était une coupure.
Le château, c'est une histoire très particulière. En fait, c'est le premier studio d'enregistrement résidentiel. C'est-à-dire, c'était un endroit... Le château n'était pas forcément très beau. Mais c'était un endroit très agréable, très créatif, où les gens se sentaient bien et surtout ils avaient envie de faire des choses bien. Bon, il y avait eu 2 périodes au château, vous le savez, il y avait celle de Michel Magne, qui avait été à l'origine de cet endroit. Et au bout de 2-3 ans, son studio a été repris en location gérance. C'est là que je suis intervenu parce qu'il est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, il faut qu'il y ait un locataire gérant et j'en vois pas et j'aimerais que ce soit toi. Alors moi, j'étais assez jeune à l'époque, je devais avoir 22-23 ans. Et donc, j'avais fondé un petit label chez Philippe qui s'appelait Télème et qui était consacré au rock français. Et c'était donc enregistré au château d'Hérouville. Donc on a fait tous ces disques étaient faits à l'époque en très peu de jours. On avait parfois un jour pour faire un album. Alors que quand les Anglais sont venus au château, eux, ils avaient 3 mois pour enregistrer à peu près.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même le préciser que le château d'Hérouville, c'est aussi là où David Bowie a enregistré quelques-uns de ses albums, oui. Elton John, et surtout le mythique Saturday Night Fever des Bee Gees a été enregistré.
Oui, tout à fait, oui. On a eu 4 albums d'Elton en tout, et David avait fait Pin Up, et ensuite le château a été abandonné, et je suis arrivé, moi, en juin 1974, pour reprendre cet endroit. Et donc, quand on est arrivé dans ce château, il y avait plus rien, il y avait même plus de matériel, tout avait été saisi par les créanciers de Michel Mann.
Il y a des concours de circonstances étonnants. Par exemple, la première fois, je disais que j'ai rencontré Gilles, c'était là-bas. Par hasard, j'ai jamais fichu les pieds là-bas. On en entendait parler de ce château parce que c'était le studio en France qui avait vu venir quelques pointures comme Elton John, je sais pas qui d'autre.
Bowie,
ouais. Et donc c'était un truc qui sonnait rock en France. Hérouville, pour nous, ça sonnait rock. Il y avait un truc mythique autour de ça. Moi, je lisais dans Rock et Folk, Best. Ça parlait du château d'Hérouville. Et c'est vrai que entre cette rencontre avec Jacques, l'album Irradié qu'on a été faire là-bas, ce Laurent Thibault, il a quelque chose quand même d'assez étonnant.
Alors je crois que l'avantage que j'ai eu, c'est que comme j'étais musicien, je comprenais bien ce que voulaient les artistes. Et je rentrais dans leur... J'étais pas le technicien qui leur parlait en termes techniques ou quoi que ce soit. On était en musique, quelque part.
Pareil, Laurent Thibault, c'est un mec qui bandait pour ce qu'il aimait. Bon, ok, il avait fait du fric, probablement en faisant venir Elton John, Bowie... Et là, il pouvait se détendre à essayer des choses avec des Français. Et il a fait ça toute sa vie. Faire ce métier, mais par amour. C'est un amoureux, comme il y en a eu dans quelques jobs. Ça arrive, ouais. On repère le professionnel ou l'amoureux, ça se voit tout de suite.
Débile, je suis du village d'idiot et j'entends les rumeurs de la ville.
Est-ce qu'irradié, est-ce que alerter les bébés aurait pu naître en dehors des rouges?
Tu sais, moi, dans la vie, je crois à ce qui est, ce qui arrive. Ce que je voulais me détacher, c'est retrouver, moi, une assise avec l'air. Respirer, quoi. Et c'est surtout quand j'ai enregistré Alerter les bébés que ça a pris corps. Irradié, c'était encore baigné dans... C'était juste une échappée et je crois que j'habitais encore à Paris. Je suis sûr même. On venait enregistrer là et puis je repartais rue d'Ancel. J'avais un pied dans la capitale et un pied dans le studio parce que le studio me plaisait pour la simple raison qu'il y avait des fenêtres qu'on voyait le jour, qu'on voyait la nuit, que c'était un endroit magnifique et très chargé. Et puis que Laurent est un mec génial. Il avait joué avec Magma aussi. C'est quelqu'un de merveilleux avec qui j'ai fait un très beau trajet, quoi. De complicité énorme. Ça a été un alter ego formidable, quoi.
Pour nous, ça a été un souvenir très fort. Et c'est à partir de là, je pense, à partir de ce moment-là, qu'est née notre amitié. Et notre collaboration.
On est rentré en studio, donc à Hérouville aussi, l'endroit où je l'avais rencontré. Et on a bossé. Et ouais, ça s'est pas passé comme ça. C'était ma première expérience de studio. C'était marrant. J'essayais de pas trop avoir le track et bon, je jouais comme d'habitude. Ouais.
Sur la bagarre, oh, oh, oh. Le show vient à peine de commencer que je me pique une parano. D'un côté les loupards, de l'autre les mégalos. Oh, oh, oh.
Au bout d'un moment, il s'est réconcilié avec Simon Boisson. Donc Simon est revenu dans l'équipe Et on s'est retrouvés les meilleurs copains du monde, Simon et moi. Presque aux dames d'Higelin, parce que on était trop copains. Higelin avait presque perdu son alter ego, qui s'entendait merveilleusement avec Simon. Alors c'est Higelin depuis un an facilement, me disait, tu sais, on va faire bientôt un album ensemble, j'espère. T'as des musiques à me proposer? Je lui dis ouais, j'en ai plein. Et j'avais rien du tout, j'avais pas pensé au moindre thème, au truc comme ça, mais bon, je pouvais improviser, ça je le savais. Et un jour, il me dit, bon, bah c'est l'heure, hein, il va falloir, on était chez lui, il me dit, bon, ça serait bien que tu me proposes quelques thèmes de musique, là, pour que j'écrive des textes. Et j'ai carrément improvisé. Donc je lui joue un truc, ah, mais c'est vachement bien. Et il me dit, attends, je reviens, j'écris un truc. Et il revient, genre, une heure après, il était parti dans sa chambre, et il revient une heure après, tiens, regarde ça, vas-y, joue ton truc. Et il a chanté un œil sur la bagarre. C'était, ça racontait genre un épisode qu'on avait vécu quelques jours avant en concert. Bordel innommable, des gens qui cassaient tout. Et puis, on était contents de ça. Donc, il me dit, bon, allez, un autre. Et ben pareil, j'ai fait comme si j'en avais un autre et j'ai improvisé un truc qui ressemblait à Sweet Jane. Et là-dessus, une heure après, il avait écrit le texte du Courage de vivre.
Une musique comme un véhicule merveilleux, quoi, et bandant, et puis une conscience, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas pour partir dans toutes les directions, c'est pour rappeler d'où ça vient, où ça va, etc. Et d'écrire aussi La fille au cœur d'acier, c'était la picouse, quoi, cette chanson. Et je voulais prévenir les mecs en disant. Elle est plus forte que toi, quoi. Elle te dira qu'elle t'aime, elle voudra te retenir dans le piège de ses charmes, dans les mailles de son sourire. Mais sache qu'elle en a maté de plus coriace que toi, pris dans son étreinte de glace et qui se tordait d'effroi. Je l'ai vu. Donc à un moment donné, tu le vois, et j'ai vu des gens qui voulaient se suicider aussi. J'ai vu plein de choses. Et j'ai pensé vraiment. Moi, j'étais un peu plus âgé. C'est peut-être ce qui m'a. Parce que quand j'ai commencé à être BBH, j'avais 35 ans. Et à 35 ans, j'avais un enfant, j'avais après un deuxième enfant. Et tu es moins après nous le déluge, quoi. Tu fais gaffe quand même. C'est pas possible, on est en plein délire et il n'y a plus personne qui tient debout, quoi. J'ai fait une coupure vraiment à un moment donné. Et j'ai fait la coupure au moment d'alerter les bébés.
Les gens épouvantés.
Ça explique pas mal de choses. Parce que là, je me suis dit, moi, j'en ai marre, quoi. Je tombais sur plein de gens qui déconnaient, quoi. Et c'était. Ça me mettait en colère, quoi. Vol de matériel, pas de parole donnée, tu vois, toutes les choses auxquelles je me raccrochais pas à ça, mais si tu donnes ta parole, tu donnes ta parole, ou alors tu le fais pas, quoi. Il y a plein de gens qui tenaient plus debout, quoi.
Il a honte de son frère. Alors il se précipite en pleurs.
Et quand on a fait ça, Laurent Thibault m'a dit, il y a Michel Magne, le compositeur, tu sais, et il dit, il va quitter bientôt la bergerie, là. Et à un moment donné, je te dis, pour les raisons dont je t'ai parlé avant, j'en ai eu marre de ça. Et quand j'ai appris, là, que Michel Magne s'en allait, il m'a dit, tu pourrais peut-être venir loger là. Et il y avait Ken qui était petit. Et j'en avais marre de le voir traîner dans Paris. Il commençait à tousser des fois, à être, tu vois, malade. Je voulais qu'on se barre, quoi. Et moi, j'avais besoin d'air, quoi. Et on avait besoin d'air tous, moi, Colin, Ken. Puis on s'est barré dès qu'on a pu avoir la bergerie. Et ce qui a donné naissance à Alerter les bébés, c'est surtout là où Alerter les bébés a pu prendre naissance et a été un disque extrêmement joyeux. Parce que j'avais, tu sais, pour isoler les instruments, j'avais demandé à un fermier de nous filer des bottes de paille. Et il y avait une grande salle qui était en fait une ancienne bergerie. Et là, j'ai pu redémarrer autre chose. C'est là que j'ai cherché d'autres musiciens que j'avais croisés. Et j'ai commencé à travailler à la bergerie, préparer l'album Alerter les bébés. Et du jour au lendemain, je suis arrivé à Hérouville et là, j'ai dit... Tu vois. Et de l'air, des balades en vélo ou à pied, et une retrouvaille avec l'air pur, avec les chants, avec l'air, putain. La révolte, elle naît d'une conscience. Et la conscience, c'est la pensée. Et la pensée, c'est des paroles. Ça s'exprime avec des textes. Et j'étais contre l'idée que le rock, qui était une musique sauvage et primitive au point de vue, comment je veux dire, force physique, énergie physique, devait être con. Et c'est le truc qui m'a vraiment travaillé à ce moment-là. J'ai dit, pourquoi des paroles bêtes alors qu'on peut chanter comme un poète, et pour moi un poète c'est pas un mec gentil et qui fait joli, c'est quelqu'un qui parle vraiment.
Et qui dénonce un vécu et qui parle.
Oui, mais Alerter les bébés par exemple, c'est comme une espèce de balade blues, on ne sait pas trop ce que c'est, que j'ai chanté d'une traite d'ailleurs et qui m'a été inspiré par je ne sais pas quelle force, parce qu'un jour, en une nuit, j'ai rempli des feuilles, j'avais la fièvre en plus et le texte m'est venu comme ça. Et j'en ai coupé une grande partie, parce qu'Alerter les bébés, ça durait, ça aurait pu durer 15 minutes aussi.
Non, mais cet album, je trouve, pour moi, c'est le plus grand. Il y a des trucs extraordinaires, il s'est laissé vraiment aller à tous les... C'est son Sergeant Peppers, il s'est laissé aller dans tous les sens. Et il y a des grands, grands moments dans cet album, il y a des grands moments extraordinaires que... Loin au-delà de tout ce qui avait été fait, au moins dans ce pays.
Mais ce qui est né de cette rupture, c'est une formidable collaboration avec Laurent Thibault, avec une énorme espace de liberté créative, quoi. De folie, d'ailleurs, Alerter les bébés, ça a été le premier, puis No Man's Land. Et ça a été vraiment de l'air, quoi. Quand le disque est sorti, il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment beaucoup plus fort, quoi. Et je me rappelle du premier concert qu'il y a eu après la sortie de l'album. C'était peut-être pas le premier, mais un jour, je suis arrivé à Lille et il y avait 1000 chaises. Je jouais toujours dans des endroits, des salles de sport, des judo clubs, des maisons de la jeunesse et de la culture, des MJC. Et je jouais partout. des fois seul, des fois avec des musiciens. Et après Alerter les bébés, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Ça a été très bien reçu. Et c'était joyeux. C'était un disque qui me ressemblait parce que c'était, ça pouvait être révolté, mais c'était joyeux. C'était Jean Jones, c'était Alerter les bébés, c'était aussi dur, mais c'était un souffle. Et je me suis vraiment retrouvé à créer ma propre musique, quoi. Sans...
Enfin, vous faisiez ce que vous vouliez.
Voilà. Et à partir de là, on a pu faire No Man's Land. No Man's Land, c'est un disque qui était... J'étais un peu en crise à ce moment-là. Donc ça a été un disque à la fois criseux et à la fois réussi quand même. Toujours avec cette collaboration avec Laurent, on inventait, on se servait d'une chaise qui craquait pour Banlieue Boogie Blues, tu vois. Où il y avait Dan Arbraz qui était venu jouer une super guitare d'ailleurs. Et là où j'ai fait Elle comme beauté, où j'ai fait des morceaux très beaux, où l'amour sans savoir ce que c'est, ou bien... Et tout mon esprit s'est libéré du poids de la tension parisienne, de la pression. Et j'ai retrouvé ma liberté de créer. Faut dire aussi, pour que tu saches, que BBH, Paris-New York, tout ça, a été créé avant BBH. Et ça a été créé dans des moments où j'avais un dictaphone, mais des gros de l'époque, accrochés autour du cou. Et je me baladais dans les montagnes du Luberon, là. Et j'ai chanté Paris-New York, Est-ce que ma guitare est un fusil ? Et c'est en fait pas du tout quelque chose qui est né dans une ambiance city, quoi. Tu vois ? Est-ce que ma guitare est un fusil ? Je le chantais à plein poumon dans des montagnes, là. Tu vois, je me baladais, je marchais à grands pas et j'envoyais ce truc-là en disant... du souffle et ils vont entendre ce qu'ils vont entendre. Mais c'est avant, c'est l'époque, fin de l'époque de la communauté. Après, on a débarqué à Paris et là, on a fait BBH. Donc, une partie city, une partie ville et une coupure et une partie de création de ce qui était ma vraie musique ou de moins de collaboration, quoi qu'il y en a eu, mais c'est moi qui faisais la musique et qui développait tout ça, tout mon univers, quoi. Et c'était un rêve, hein. Tu vois, t'imagines le bonheur que j'ai pris à faire ça. J'étais heureux, quoi, hein, ça me ressemblait.
Jacques Higelin.
Tu es la beauté que j'adore, car elle m'a appris à aimer et à comprendre la laideur.
Réalisation Dominique Martineau-Lagarde. Assistant de production Julien Vanas.
Qui est le miroir ?
Une production de La Première, RTBF, pour les radios francophones publiques.
Où je peux contempler
Inter.
Quand j'ai fini de mixer le disque, on lui a fait écouter ça. Et Jacques était tellement perdu qu'il ne savait plus quoi penser. Et c'est vrai que No Man's Land était le départ de quelque chose pour Jacques. Il y avait dans les arrangements, dans les choses, il y avait des choix nouveaux. Et il ne savait plus quoi. Et donc, il a été incapable de dire si c'était bien, si c'était mal, si... Donc, nous, on était crevés, donc j'ai dit à Jacques, écoute, t'as fait sûrement ton plus beau disque, et tu verras qu'il sera disque d'or, et s'il est disque d'or, je l'accrocherai dans la cabine du château, et il restera là, dans le studio. Et on s'est quitté là-dessus. Et quand j'ai porté les bandes le lendemain à Philippe Constantin, chez Pathé, il m'a dit, mais qu'est-ce que ce truc-là ? Il se prend pour un musicien maintenant, c'est pas ça du tout qu'il fallait faire. On voulait une cigarette, on voulait un truc à Alain Gainsbourg, etc. Et le disque n'est pas sorti. Et finalement, au mois de juillet, c'est d'ailleurs le moment le pire pour sortir un disque, ils ont sorti ce qu'on avait fait. Et bien, avant Noël, le disque était disque d'or. Et un très gros succès qui était pas.
Chanson marquante de Jacques Higelin sur l'album No Man's Land de 1977. Que serait Jacques Higelin sans la scène ? Ce sera le thème du feuilleton de demain à 14h.